Le journal présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. Deux fusillades en moins de 24 heures ont fait 29 morts aux États-Unis. 20 personnes ont été tuées ce matin à El Paso, au Texas, et 9 autres dans la nuit de samedi à dimanche à Dayton, dans l'Ohio. Nous ferons dans cette édition un point complet sur la situation avec Loïc Loury. On apprend aujourd'hui le décès de Nguyen Xea, qui fut le principal idéologue et le frère numéro 2 du régime des Khmers Rouges au Cambodge. Il avait 93 ans. Cet ancien bras droit de Pol Pot avait été reconnu coupable de génocide l'an dernier et condamné à la prison à vie. Nous entendrons Jeanne Sulzer, avocate qui avait participé justement à l'instruction du dossier. Un navire a été saisi en Iran. Il transportait du carburant de contrebande, selon l'agence de presse officielle iranienne. C'est la troisième fois en un mois que ce type de fait se produit. Nadine Epstein nous aidera à y voir plus clair sur le sujet. Le dernier bilan de ces deux fusillades qui se sont déroulées aux États-Unis est donc de 29 morts, deux tueries qui se sont succédées en moins de 24 heures. 20 personnes ont été tuées samedi matin à El Paso, au Texas, dans un centre commercial. Le tireur présumé a été interpellé et placé en garde à vue. La police soupçonne un crime raciste envers la communauté hispanique. Moins de 13 heures plus tard, à Dayton, dans l'Ohio, c'est un autre homme qui a ouvert le feu et qui a tué 9 personnes. 16 autres ont été hospitalisés pour des blessures. Le tireur a été abattu. Point complet sur la situation avec Loïc Loury.
249e et 250e fusillade d'ampleur cette année aux États-Unis. El Paso et Dayton rejoignent Sandy Hook, Parkland et les autres, ces villes endeuillées par la violence des armes. Dans l'Ohio, le tireur a ouvert le feu après 1h du matin. Il visait un quartier très animé. La police aura mis moins d'une minute à abattre l'assaillant, mais celui-ci était lourdement armé et cette poignée de secondes aura été fatale pour 9 personnes. À El Paso, la même foule, mais cette fois dans un supermarché populaire. Bilan 20 morts pour cette tuerie la plus sanglante depuis 2017. Comme toujours après le choc, le débat sur les armes refait surface, mais avec quel résultat? Plusieurs démocrates, par ailleurs, dénoncent aussi la rhétorique violente, raciste de Donald Trump comme un terreau favorable à certains de ces massacres. Le tueur d'El Paso, en effet, serait l'auteur d'un manifeste publié sur Internet évoquant une invasion hispanique du Texas, le type d'expression employée régulièrement par le président américain. Ces dernières semaines, il a ainsi évoqué l'infestation par les rats de Baltimore, une ville à majorité noire. Il a aussi appelé plusieurs femmes de couleur, des élus du Congrès, à rentrer chez elles.
Et toujours à propos de ces tueries, il y a une déclaration en particulier qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle de Beto O'Rourke, qui est l'un des nouveaux ténors du parti démocrate. Il a perdu de peu l'an dernier l'élection pour le poste de sénateur du Texas. Il est aussi originaire d'El Paso, dont il a été élu en tant que représentant au Congrès. Et il met directement en cause la rhétorique de Donald Trump dans cette tuerie de samedi à El Paso. Écoutons-le.
We've had a rise in hate crimes, every single one of the last three years.
Les crimes de haine ont augmenté chaque année depuis que cette administration est au pouvoir, avec un président qui qualifie les Mexicains de violeurs et de criminels, alors que le taux de criminalité chez les immigrés mexicains est bien plus faible que celui des Américains. Il veut qu'on ait peur d'eux, et ça a des conséquences réelles. Il y a eu aussi ces chants renvoyés là chez elle lors d'un de ses meetings en Caroline du Nord. On parle de citoyennes américaines élues pour représenter leur circonscription au Congrès, sauf qu'elles se trouvent être des femmes de couleur. C'est un raciste et il attise le racisme, et ça ne fait pas qu'offenser nos petites sensibilités. Non, ça change le caractère fondamental de ce pays et ça conduit à la violence.
Beto O'Rourke, qui est donc l'un des principaux candidats à la primaire démocrate pour 2020. Il était l'idéologue de la machine à tuer des Khmers Rouges qui ont dirigé le Cambodge entre 1975 et 1979. Il était donc l'une des têtes pensantes en quelque sorte de ce régime ultra-maoïste qui fit quelques 2 millions de morts. Nguyen Xea est décédé aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Il s'était rendu aux autorités cambodgiennes en 1998 dans le cadre d'un accord qui avait mis fin aux activités des Khmers Rouges. Il avait pourtant continué à vivre librement pendant près de 10 ans avant d'être finalement arrêté fin 2007. Jeanne Sulzer, avocate, a participé à l'instruction du dossier numéro 2 contre Nguyen Xea et le désormais seul responsable survivant de ce régime, Khieu Samphan. On l'écoute.
C'était le frère numéro 2, donc c'était le bras droit effectivement de Pol Pot. C'était vraiment un idéologue, d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie et pendant le procès, il a refusé de répondre à toutes les questions pendant l'instruction et pendant les audiences également. Il a toujours tenu la même ligne jusqu'au bout. Il a été condamné deux fois. Une première fois dans un premier procès en 2013 et ensuite en appel en 2016 pour crime contre l'humanité et génocide pour avoir participé et organisé le transfert massif de la population cambodgienne en 1975, puis en 1976 et 77. Et il venait d'être condamné à une seconde fois, et les peines ont été fusionnées à une réclusion à perpétuité, il y a quelques mois, pour notamment génocide à l'égard des populations vietnamiennes et de la minorité musulmane Cham. Donc il faisait l'objet d'une réclusion à perpétuité qui venait d'être confirmée et un appel était en cours jusqu'à son décès. Il reste donc plus que Khieu Samphan devant le tribunal Khmer Rouge.
Jeanne Sulzer au micro de Nabila Hamel. L'Iran annonce aujourd'hui la saisie d'un navire étranger dans le Golfe. Le navire transportait 700 000 litres de carburant de contrebande autour de l'île de Farsi. C'est ce qu'affirme l'agence de presse officielle iranienne. Il s'agit du troisième bateau arraisonné par la République islamique en moins d'un mois dans cette région stratégique au cœur des tensions entre Téhéran et Washington. Les précisions de Nadine Epstein.
Les Iraniens n'ont pas été très bavards sur cette saisie de navire. Ils ont annoncé l'arrestation de 7 marins sans préciser leur nationalité. Le Tanger, selon la télévision publique de Téhéran, transportait du pétrole de contrebande, 700 000 litres de carburant, et il faisait route vers des États arabes quand il a été stoppé autour de l'île de Farsi dans le nord du Golfe. C'est la troisième fois en quelques semaines que les forces navales des gardiens de la Révolution arraisonnent un bâtiment étranger. Chaque incident fait craindre un embrasement général. Déjà en mai puis en juin, les mystérieuses attaques et sabotages commis contre des pétroliers dans le Golfe et la destruction d'un drone américain auraient pu mener à un énorme désastre, Donald Trump ayant affirmé avoir annulé à la dernière minute des frappes de représailles contre l'Iran. Aujourd'hui, c'est un général iranien qui déclare « Il pourrait sembler que la situation dans le Golfe Persique s'oriente vers un conflit militaire, mais en regardant de plus près, cette probabilité de moins en moins élevée », fermer les guillemets. Rappelons que le tiers du pétrole mondial acheminé par voie maritime transite par la région du Golfe du détroit d'Ormuz.
Nadine Epstein. Au Yémen, nous l'évoquions déjà à 12h30, l'aide alimentaire de l'ONU va pouvoir reprendre dans les zones contrôlées par les insurgés. Cette aide envers les civils était suspendue depuis le 20 juin dernier. Les rebelles houthis avaient été accusés de la détourner. Un document a donc finalement été signé hier à Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les houthis. Ce document prévoit notamment l'inscription dans une base biométrique des civils qui ont besoin d'aide de manière à garantir une distribution effective et efficace et à en faire profiter les plus pauvres. Alors que demain se profile une grève générale exceptionnelle à Hong Kong, c'était aujourd'hui encore une journée tendue sur l'île. Les manifestants pro-démocratie ont de nouveau défilé. Les autorités de Pékin, de leur côté, promettent de ne pas rester, je cite, les bras croisés face aux forces abjectes qui sapent l'unité nationale. Ce sont les mots de l'agence de presse officielle du gouvernement Chine Nouvelle. Sur place, correspondance signée Zifan Liu.
Cette fois, ce sont les résidents du district de Kennedytown, un quartier situé à l'ouest de l'île de Hong Kong, qui ont appelé leurs concitoyens à se réunir une nouvelle fois pour accentuer la pression sur le gouvernement.
Précédemment, je me contentais de participer à ces événements, mais je ne les organisais pas. Cette fois, j'avais vraiment envie de m'affirmer, car premièrement, on ne peut pas accepter cette loi d'extradition. Et puis, la violence de la police ne fait qu'empirer. Donc c'est, je pense, pour moi, le temps de m'affirmer, de faire quelque chose.
Comme toujours depuis maintenant presque deux mois, les Hongkongais ont répondu présents malgré la fatigue et la lassitude.
Je crois que j'ai participé à toutes les manifestations de ces deux derniers mois. Je sens la différence cette fois. Il y a tellement de gens d'horizons différents. Il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des gens qui me semblent plus conservateurs et même eux supportent ce mouvement. En tant que Hongkongais, si on ne se bat pas pour cela, on le regrettera dans le futur.
Après quelques discours, un défilé devait avoir lieu dans le quartier, mais la police a refusé, arguant que le parcours qui passait par un commissariat de police et le bureau de liaison de Pékin était trop sensible.
Et de nouveaux heurts ont opposé ce soir manifestants pro-démocratie et police anti-émeute à Hong Kong. Le gouvernement allemand tape du poing sur la table contre la Russie. C'est un communiqué officiel de Berlin qui reproche à Moscou de violer ses obligations internationales pour des élections libres et équitables en raison de l'arrestation de plus de 800 personnes après des manifestations. Les arrestations opérées hier étaient disproportionnées vu la nature pacifique des protestations contre l'exclusion de candidats indépendants pour les élections municipales le mois prochain. C'est ce qu'écrit donc ce communiqué où l'on peut lire toujours que le gouvernement allemand condamne les ingérences répétées dans le droit garanti au rassemblement pacifique et à la liberté d'expression. Il appelle la Russie à protéger efficacement les droits fondamentaux de ses citoyens et demande la libération rapide de tous les manifestants pacifiques. Les 40 migrants qui avaient été secourus il y a quelques jours en mer Méditerranée ont pu débarquer comme prévu à Malte aujourd'hui. Le groupe avait été sauvé au large de la Libye par l'équipage du navire Alan Kurdi de l'ONG allemande CI. Le navire n'a pas pu entrer dans les eaux territoriales maltaises. Ce sont les gardes-côtes maltais qui ont pris en charge les migrants. Ils ne pourront pas rester sur le territoire de Malte. Ils seront répartis entre plusieurs pays de l'Union européenne qui ont accepté de les prendre en charge. En France, une nouvelle manifestation en hommage à Steve Canisso s'est déroulée aujourd'hui dans les rues de Rouen en Seine-Maritime. Près de 500 personnes ont défilé dans le calme ce dimanche après-midi en souvenir de ce jeune homme disparu le soir de la fête de la musique à Nantes, ce même soir où s'est déroulée une opération de police extrêmement critiquée. Des ballons blancs ont été accrochés sur le pont Jeanne d'Arc de Rouen et des roses blanches ont été jetées dans la Seine. Une minute de silence a été observée. Les Chibani sont enfin des retraités comme les autres. Les Chibani, ce sont bien sûr ces anciens travailleurs immigrés maghrébins venus en France durant les Trente Glorieuses. Jusqu'à présent, pour bénéficier de droits à la sécurité sociale, ils devaient justifier d'une résidence en France durant au minimum 6 mois et un jour par an. Ceci alors même qu'ils ont cotisé toute leur carrière. Depuis cet été, ils peuvent continuer de bénéficier de leurs droits quel que soit le pays où ils résident. C'est un amendement déposé en fin 2018 qui a permis de mettre fin à cette injustice. Et c'est le fruit, Hugo Charpentier, d'un combat de longue date porté par des associations et des parlementaires.
Ils seraient 300 000 à vivre encore en France. Les Chibani peuvent désormais, s'ils le souhaitent, retourner dans leur pays d'origine sans crainte de ne plus pouvoir être soignés. Une victoire pour Fiona Lazar, députée En Marche du Val d'Oise qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Une victoire qui en plus tombe à pic, explique-t-elle.
Parce que c'est le moment où les retraités prennent le car pour 3 jours pour rentrer dans leur pays d'origine. Et avant, ils partaient pour 6 mois et revenaient parce qu'ils devaient rester 6 mois et un jour en France. Et bien là, c'est le moment de leur dire, si vous partez et que vous souhaitez rester là-bas, vous pouvez. Pour moi, il y avait une injustice de se dire que parce qu'ils étaient étrangers, ils n'avaient pas les mêmes droits que leurs homologues français.
Désormais, ils seront donc couverts par la sécurité sociale où qu'ils soient, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, peu importe, plus besoin d'attendre 6 longs mois, le plus souvent dans des foyers pour travailleurs immigrés, des vieux monsieur qui sont alors très seuls et isolés, explique Salem Fkir, président de l'association Cap Sud MRE qui défend les droits des Chibani.
Il n'y a pas moins de 2 semaines, nous avons trouvé à Carré-sous-Poissy un retraité mort depuis plus d'une semaine tout seul dans son foyer. Donc c'est là où on se retrouve avec des personnes seules, âgées, sans famille, alors qu'ils pourraient être dans leur pays d'origine, y vivre. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de ces pères et mères, nous avons voulu prendre ça à bras-le-corps.
Désormais, Salem Fkir se tourne vers un nouveau combat, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dont le versement implique là encore l'obligation de résider au moins 6 mois par an en France. Cela concernerait une 40aine de milliers de Chibani.
Hugo Charpentier. Boire de l'eau d'iceberg dans vos bouteilles. L'activité est en train de se développer sur l'île de Terre-Neuve à l'est du Canada. Des chasseurs d'iceberg partent à la conquête de ces grosses masses, ils les broient et puis ils revendent l'eau récupérée à des entreprises locales qui en font un produit de luxe. Juliette G.
Plusieurs coups de fusil pour décrocher un morceau de glace, puis un coup de pelle mécanique. Avec cette technique, Edward Keane, un Canadien âgé de 60 ans, broie 1 tonne de glace par pelletée. Et pas n'importe quelle glace, c'est l'une des plus pures au monde, puisqu'elle a gelé bien avant la révolution industrielle du XXe siècle. Pour autant, est-ce bon pour l'environnement ? Pas si évident si l'on en croit Gaël Durand, glaciologue.
Écologiquement, c'est une aberration de transporter de l'eau sur des milliers et des milliers de kilomètres. C'est juste que c'est une activité supplémentaire d'aller transporter de la glace depuis l'épaule jusqu'à son consommateur, que ça nécessite de dépenser de l'énergie. 800 000 litres d'eau, c'est très faible par rapport à la quantité d'iceberg qui est produite chaque année autour du Groenland.
Peu de choses par rapport au nombre d'icebergs peut-être, mais suffisamment pour gagner beaucoup d'argent. Une bouteille d'eau est vendue 11 euros et le prix peut monter à 60 euros quand cette même eau est mélangée à de la bière ou de la vodka.
Juliette G. Le ciel de demain reste ensoleillé sur une majeure partie du pays, mais attention quand même à des risques d'averses qui pourraient toucher par exemple la Normandie. Risque d'orage également dans l'après-midi sur le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Côté température, demain matin, il fait 18 degrés en Bretagne et ça pourra monter jusqu'à 30 degrés dans le Gard. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau. Elle a été réalisée à la technique par Alex Dang.